Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
C'est Nathalie.
À la bonne heure, le MAG Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et nous sommes aujourd'hui avec le commandant du PGHM des Hautes-Alpes, Pierre-Marie Dupré, chef d'escadron, pardon. Donc le PGHM qui assure les secours en montagne. Nous allons parler déjà de cette situation de l'année 2024-2025. Est-ce que vous avez déjà des chiffres sur le nombre d'interventions que vous avez réalisées en cet hiver ?
Alors j'ai en tout cas les chiffres pour 2024, l'année 2024, et puis quelques tendances pour l'hiver 2024-2025, peut-être commencer par l'année 2024 avec une activité soutenue pour le PGHM des Hautes-Alpes avec à peu près 450 opérations de secours. Je précise qu'on est on travaille en alternance avec le détachement de la CRS Alpes de Briançon et que du coup ces chiffres-là, il faut les multiplier à peu près par deux pour avoir l'activité globale du secours en montagne sur les Hautes-Alpes, donc environ 900 opérations de secours. Donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on constate une augmentation quasi continuelle du nombre de secours annuels, et puis l'année 2024 est donc une année de record d'activité pour nous, si je peux m'exprimer ainsi, avec donc un volume vraiment soutenu d'activité pour le secours en montagne dans tous les domaines on va dire de l'accidentologie classique en montagne.
Et en été comme en hiver alors ?
En été comme en hiver, avec des pics d'activité qui sont bien entendu saisonniers, avec à la fois un pic d'activité l'été. Paradoxalement, c'est l'été que c'est peut-être le plus méconnu, mais c'est l'été qu'on a le plus grand nombre d'opérations de secours sur les mois de juillet-août où la fréquentation est très importante. Et puis un autre pic saisonnier avec l'activité hivernale.
Donc oui, c'est en été finalement, et pourquoi pas en hiver ? Les gens se prépareraient mieux ?
Non, je pense pas que ce soit une question de préparation. Il y a deux raisons. La fréquentation et l'augmentation de la fréquentation estivale en montagne, qui, je crois, n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Et nous, notre accidentologie, en tout cas notre volume de secours, il est lié aussi au volume de pratiquants. Et puis une chose aussi concernant la pratique hivernale, parce qu'on a l'image bien sûr des domaines skiables, des stations de ski, mais qui possèdent un service de secours dédié pour la pratique du ski alpin. En tout cas du ski dans certaines conditions, et donc c'est pour ça aussi que les secours en montagne ne sont pas engagés systématiquement sur les domaines skiables.
Mais ils peuvent l'être alors ?
Ils peuvent l'être dans des conditions précises de technicité ou de nécessité de médicaliser un secours.
Et je reviens sur les chiffres, vous donnez des chiffres qui sont sur l'année 2024, et quand même sur cet hiver-là en particulier, vous, votre ressenti au PGHM des Hautes-Alpes, vous avez l'impression d'avoir également une augmentation des interventions ?
On a une légère augmentation, mais c'est assez stable finalement par rapport à l'hiver dernier en tout cas. On a une très légère augmentation, on est à peu près depuis le mois de décembre 2024, on est à peu près à 130 opérations de secours pour le PGHM. Donc c'est des chiffres qui sont finalement sur des tendances assez stables par rapport à l'an dernier.
D'accord, pas de surprise. Et au niveau des conditions, est-ce que cette année ressemble à l'an passé ?
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. On a une année qui était assez pauvre en neige, en tout cas jusqu'à maintenant. Je parle aujourd'hui alors qu'il a neigé quand même abondamment en montagne et en haute montagne en tout cas. Mais donc on a eu une période finalement au mois de mi-janvier jusqu'à fin février où on avait finalement un enneigement assez déficitaire dans les Hautes-Alpes, ce qui a amené assez peu d'accidents en avalanche sur cette période-là. En revanche, on a eu quelques épisodes neigeux et puis quelques épisodes d'avalanche qui ont eu lieu, je crois, au mois de janvier, après des chutes de neige, et une période de beau temps après des chutes de neige où on sait les gens ont tendance à vouloir sortir et profiter des bonnes conditions de neige.
De quelles conditions vous vous méfiez le plus ? Ce sont celles des avalanches suite à une grosse chute de neige ?
En hiver, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on essaie d'appeler les gens à la prudence parce qu'on le sait que les conditions peuvent être particulièrement difficiles à lire. On a de plus en plus souvent, je crois, des chutes de neige qui sont accompagnées de vent. En tout cas, ça, c'est une tendance sur les dernières années et qui viennent du coup créer des phénomènes de plaques à vent, parfois difficilement décelables, et pour lesquels les pratiquants pourraient se faire piéger. Et donc on appelle bien sûr les pratiquants de ski de randonnée, de ski hors piste, mais aussi de raquette à neige, à bien se renseigner sur les conditions et puis à partir équipés en conditions, et puis peut-être aussi à changer leur plan en fonction des conditions du moment.
Nous aurons l'occasion de revenir sur les recommandations. Est-ce que vous êtes autant vigilant quand le risque avalanche est de 2 que de 4?
Alors oui, on reste toujours vigilant. Le risque zéro, on le dit souvent, n'existe pas en montagne. D'ailleurs, quand on prend un bulletin d'estimation du risque d'avalanche, il n'est jamais à zéro, il est de 1 à 5. Donc on reste toujours aussi vigilant. Après, on a des périodes, on le sait, où le manteau neigeux va être particulièrement instable et où ça nous demande une réactivité réellement de tous les instants. Mais notre dispositif opérationnel n'évolue pas. Il est en place notamment pour la période hivernale avec la présence de maîtres de chiens d'avalanche au sein de l'unité directement présent à la DZ avec l'hélicoptère. Donc c'est un dispositif qui pour le coup est valable tout l'hiver sur une période élargie et qu'on peut encore élargir en fonction des conditions jusqu'au début du printemps si par exemple comme par exemple en ce moment il y a des chutes de neige qui importantes qui interviennent.
On va parler de votre fonctionnement. Ça fait maintenant 4 ans que vous êtes commandant du PGHM des Hautes-Alpes. En quoi consiste votre travail? On va parler déjà du vôtre, vous en tant que commandant, et ensuite de comment fonctionne le PGHM en lui-même.
Alors, c'est la responsabilité du commandement d'une unité de la gendarmerie, le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui est spécialisé dans le secours en montagne. Et donc, mon rôle, c'est d'organiser à la fois le service, les entraînements, le maintien en condition opérationnelle, de façon à ce que l'unité soit tout à fait opérationnelle et à ce que l'ensemble des secouristes qui composent cette unité puissent effectuer leur travail dans les meilleures conditions. Et donc, j'ai à la fois un rôle de gestion administrative, mais aussi un rôle opérationnel, puisque je participe aussi à la permanence secours. Donc c'est ça mon rôle aujourd'hui.
Et combien êtes-vous dans l'unité du PGHM?
Nous sommes 23.
Et comment, de quels moyens vous disposez?
Alors peut-être commencer par l'hélicoptère, puisqu'il y a souvent une idée préconçue. On parle parfois d'hélicoptère du PGHM, mais il s'agit bien d'une unité distincte, la section aérienne de la gendarmerie, qui est basée à Briançon pour le département des Hautes-Alpes, avec un hélicoptère et une unité dédiée qui est composée de pilotes, de mécaniciens. Qui ont la responsabilité de faire décoller et de nous transporter sur les lieux. Donc l'hélicoptère c'est bien un vecteur. Ça n'est pas le seul pour le secours en montagne, mais c'est vrai que c'est un vecteur qu'on utilise très régulièrement pour les missions de secours qui sont les nôtres. Mais donc c'est peut-être le premier moyen, peut-être celui le plus emblématique aussi
du
secours en montagne.
On vous entend.
Exactement, avec son nom Chouka 05 pour les Hautes-Alpes.
Et donc il est mis à votre disposition dans des conditions difficiles d'accès peut-être ou de rapidité?
Absolument, on a à la fois cette notion de rapidité et cette notion de technicité ou d'accessibilité difficile qui font que dans beaucoup d'opérations de secours en montagne, l'hélicoptère est un moyen qui permet à la fois de gagner du temps et de se projeter sur des zones techniquement difficiles d'accès. Pour autant, ça n'est pas le seul moyen et on intervient aussi en ce qu'on appelle nous dans notre jargon en caravane terrestre. Donc ce sont des opérations de secours qui sont beaucoup plus longues puisqu'on doit se rapprocher. Alors parfois l'hélicoptère peut nous rapprocher au maximum et puis ensuite c'est une progression à ski, parfois avec d'autres moyens que je n'ai pas encore évoqué, mais des motoneiges, des quads chenillés ou sur roues, des 4x4 qui nous permettent de nous avancer au maximum avec des moyens motorisés. Et puis ensuite, c'est des caravanes pédestres, donc à ski, à pied, en fonction des conditions d'enneigement notamment. Et donc des secours qui s'installent forcément beaucoup plus dans le temps que quand on peut accéder en hélicoptère et repartir avec la victime en hélicoptère.
Et donc là, on parle de vous, du PGHM, mais vous ne travaillez pas toujours tout seul. Vous travaillez parfois aussi avec les secouristes de la CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité des Alpes. Comment vous travaillez avec eux?
Alors, dans le département des Hautes-Alpes, il s'agit d'un régime d'alternance, c'est-à-dire que on alterne la permanence pour le secours en montagne une semaine sur deux avec le détachement de la CRS. Donc les semaines paires, c'est le PGHM qui est de permanence secours, et les semaines impaires, c'est la CRS Alpes qui est de permanence secours. Donc bien sûr, les CRS sont un des partenaires privilégiés pour le secours en montagne, pour le PGHM, et d'ailleurs on se renforce mutuellement sur les semaines où nous ne sommes pas de ce qu'on appelle de première alerte. On se renforce mutuellement avec cette unité quand il y a besoin de renforts en personnel ou en moyens. J'évoquais aussi la section aérienne de la gendarmerie de Briançon, partenaire privilégié avec donc l'hélicoptère, les pilotes, les mécaniciens. Et puis un troisième acteur, ce sont les médecins des urgences du centre hospitalier de Briançon qui, pour environ 60% de nos opérations, nous accompagnent. C'est ce qu'on appelle les secours qui sont médicalisés. Et donc, dans ces cas-là, on part avec un médecin urgentiste de l'hôpital de Briançon qui nous accompagne et qui permet une prise en charge préhospitalière directement sur le terrain des victimes les plus gravement touchées.
Et vous travaillez souvent avec les mêmes personnes, au final. Vous avez vraiment des personnes ciblées qui sont destinées à vous soutenir dans ces actions-là?
Exactement, ce sont des petites équipes, ce qui fait que tout le monde se connaît. Ça permet aussi de travailler. Voilà, on travaille régulièrement ensemble. On s'entraîne aussi beaucoup régulièrement, très régulièrement ensemble, pardon. Ce qui nous permet de bien nous connaître et donc de fonctionner en osmose entre ces trois acteurs, l'unité de secours en montagne, l'hélicoptère et le médecin.
En dehors de ces moments de secours, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, on fait tout un tas de choses. Donc, comme je vous le disais, il y a une semaine où on est de permanence opérationnelle, de première alerte pour le secours en montagne. Et donc, notre mission principale pendant cette semaine-là, c'est le secours en montagne. Et donc, ça nécessite un dimensionnement de la permanence qui est assez important. Donc, je vous disais, nous sommes 23 et l'hiver, nous pouvons monter jusqu'à 13 personnes de permanence journalière, sachant que ce sont des permanences sur on va dire, H24. Donc, tout ça, c'est consommateur finalement en personnel. Donc il y a une partie de la semaine de non permanence qui est utilisée pour récupérer les repos qu'on n'a pas pu prendre par exemple sur les week-ends. Et puis il y a toute une notion de maintien en condition opérationnelle puisque notre travail de secouriste en montagne impose une aisance à la fois sur des gestes techniques de secourisme, de montagnard. Et de gendarmes. Et donc, tout ça, ce sont des compétences qui se maintiennent, qui s'entretiennent. Et donc, tout ça, on le fait sur la semaine où nous ne sommes pas de première alerte en priorité. Et puis aussi, peut-être un volet qui est moins connu, c'est que le PGHM fait partie intégrante du dispositif de la gendarmerie sur le département des Hautes-Alpes. Et donc, il n'est pas rare qu'on soit sollicité, on va dire, en appui de certaines autres unités, dès qu'il y a une notion de technicité d'accès, par exemple, ou une nécessité d'évoluer en montagne, c'est bien le PGHM qui va être sollicité en première intention.
Je voyais que vous demandiez dans vos réseaux de communiquer au PGHM lorsque l'on observe des avalanches, même s'il n'y a pas eu d'accident lorsqu'on passe. Pourquoi ? C'est pour prévenir des potentiels accidents ?
Alors, quand on demande aux pratiquants de nous signaler des événements climatiques et notamment des avalanches, c'est surtout parce que potentiellement, si les gens qui déclenchent l'avalanche, même s'ils ne sont pas pris dedans, ils ne sont pas ensevelis, qui rentrent à la voiture, potentiellement, on a d'autres randonneurs qui vont voir cette avalanche et qui vont nous appeler pour nous dire il y a une avalanche à tel endroit. Et donc, si on a l'information que cette avalanche, elle a été déclenchée, que tout le monde est indemne, qu'elle a été par exemple déclenché à distance, ça nous permet d'éviter d'engager des moyens pour aller vérifier et éventuellement faire une reconnaissance sur place. Mais il y a aussi tout un volet puisqu'on peut évoquer les missions du PGHM. On a évoqué la première mission qui est la plus connue, celle de l'assistance, du secours et de la recherche de personnes en montagne. Mais on a en réalité trois volets missionnels. Donc ce premier volet missionnel qui est le secours en montagne. Le deuxième volet missionnel, c'est celui de la police judiciaire et de la police administrative, puisque vous le savez, nous sommes gendarmes et donc on a une capacité d'enquête et donc on effectue sur chacune des opérations de secours, on effectue des constatations qui nous permettent de déterminer s'il y a des responsabilités particulières dans un cadre judiciaire ou dans un cadre administratif. Et puis le troisième bloc missionnel, c'est pour rebondir sur votre question, c'est celui de la prévention, du contact avec les professionnels, avec les pratiquants, de la police du milieu aussi. Et donc, c'est toutes ces actions qui nous permettent de conseiller aux pratiquants, de donner des conseils de sécurité, ce que je fais aujourd'hui, mais aussi voilà, d'être intégré dans cet écosystème montagnard, de prendre le pouls de l'écosystème montagnard, et puis s'il y a nécessité de mener des actions particulières, de les prendre.
Je vous propose une pause musicale. On va écouter Laura Cahen, La Jetée, puisque aujourd'hui, une sélection musicale uniquement féminine pour faire écho à la Journée internationale des droits des femmes.
Efface la peine.
Salut, c'est Olivier.
C'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Vous écoutez Fréquence Mistral et nous sommes aujourd'hui dans le magazine du midi avec Pierre-Marie Dupré, chef d'escadron et commandant du PGHM des Hautes-Alpes. Nous avons parlé, donc, fait un petit bilan de 2024 et de cet hiver 2024-2025. Nous avons également parlé de vos missions et du fonctionnement du PGHM. J'aimerais revenir, avant de parler plus précisément de vos interventions, de la formation que cela implique. Vous disiez que vous continuez de vous entraîner tout au long parce qu'il faut entretenir ces compétences. Mais au départ, comment on les acquiert, ces compétences ?
Alors, c'est un peu comme les blocs missionnels. Il y a, pour la formation, en réalité, le gendarme secouriste au PGHM, il possède trois casquettes qui sont complémentaires. Sa première casquette, c'est celle de gendarme. Je l'évoquais dans les blocs missionnels, mais la police judiciaire et la police administrative font partie intégrante de nos missions. Et donc, tous les gendarmes secouristes au sein des PGHM ont suivi une formation de sous-officiers ou officiers de gendarmerie, ont été en école de formation. Et donc, ils ont le même socle de formation de gendarmes que tous les autres gendarmes de France. Ça, c'est finalement la première casquette. La deuxième casquette, avec une petite spécificité, c'est qu'en plus, tous les gendarmes secouristes en PGHM sont officiers de police judiciaire. La deuxième casquette, c'est la casquette du secouriste, puisque notre mission principale, on l'a évoqué, c'est bien le secours à personne. Et donc, on suit tout un socle de formation au secourisme à proprement parler, puis des formations spécifiques au secours en montagne qui nous permettent de maîtriser les bons gestes techniques dans le cadre du secourisme. Et puis le dernier volet, c'est la casquette de montagnard, puisque nous sommes amenés à intervenir sur toutes les disciplines, toutes les activités pratiquées en montagne. On demande aussi aux gendarmes secouristes affectés en PGHM d'avoir un socle de compétences et une aisance dans tous les domaines d'activité de la montagne qui permettent d'opérer en secours sur tous les types d'activités. Et donc, on a des formations qui sont des formations initiales, qui sont longues dans ces trois domaines, finalement. La formation initiale regroupe ces trois domaines. Et donc ça, c'est la formation initiale qui se déroule pour une bonne partie au Centre National d'Instruction au ski et à l'alpinisme de la gendarmerie qui est basé à Chamonix. Et à l'issue de cette formation initiale, donc les gens sont affectés dans des unités spécialisées du secours en montagne de la gendarmerie. Et puis tout au long de notre carrière, on continue avec des actions de formation continue qui nous permettent de développer des compétences, d'abord de chef d'opération, puis de commandant d'opération de plus grande ampleur, ce qui nous permet donc via ces actions de formation continue de toujours finalement retourner déjà au centre de formation et adapter nos pratiques avec les évolutions des pratiques de la montagne et puis les évolutions technologiques aussi.
Et donc, vous disiez que c'est à Chamonix, mais à Chamonix, c'est un centre de formation vraiment pour le PGHM ou vous pouvez être mélangé avec d'autres corps de la gendarmerie ?
Alors, le centre de formation, il a plusieurs missions. Il a un impact en formation sur beaucoup des strates de formation montagne des gendarmes. Et nous, on va dire qu'on a une partie... notre formation initiale se passe au centre, et puis ces formations continues se passent aussi au centre à Chamonix, mais qui n'a pas que la mission de former les spécialistes montagne de la gendarmerie, mais aussi d'autres niveaux de compétences intermédiaires.
Je vais revenir maintenant sur vos interventions. On disait que vous pouvez être appelé et vous allez sur le terrain. Vous êtes donc formé à aller donc sur tout type de terrain et être amené à y aller aussi avec des partenaires, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais quand intervenez-vous? Dans quelle situation exactement? À chaque fois qu'on vous appelle?
Alors non, on intervient à chaque fois que c'est nécessaire. Pour ça, il faut soit qu'on nous appelle, soit quelqu'un d'autre nous appelle. Et puis, il faut qu'on évalue, on va dire, la criticité de la situation et donc la nécessité ou pas d'engager des moyens spécialisés. Donc, tout cela fait l'objet d'une, ce qu'on appelle une conférence téléphonique entre le requérant, la victime, potentiellement un médecin s'il y a une notion de blessure, et un opérateur de l'unité de secours en montagne, le PGHM en l'occurrence, qui va permettre d'évaluer les moyens les plus adaptés, d'optimiser la réponse opérationnelle. Et d'ailleurs, non, comme on n'intervient pas à chaque fois, puisque l'année dernière, on a finalement des moyens technologiques qui nous permettent aussi de réguler des alertes sans engager de moyens. Par exemple, des gens qui sont perdus, qui ont perdu le sentier, on a aujourd'hui des dispositifs qui nous permettent de les réorienter via leur téléphone portable sans engager de moyens, et donc qui permettent de gagner du temps pour tout le monde et de ne pas engager inutilement des moyens. C'est 35 opérations de ce type qui ont été réalisées en 2024, par exemple.
Qui allez-vous aider? Tout le monde peut avoir recours à votre aide?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut retenir peut-être aujourd'hui aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à nous appeler. Alors, ce qu'on recommande, c'est de passer par le numéro 112. C'est le numéro d'appel d'urgence européen qui est réceptionné par un centre de traitement des appels des pompiers, le centre de traitement des appels du CODIS, et qui ensuite, en fonction des éléments de l'alerte, va retransférer l'appel directement à l'unité de secours en montagne. Donc, il ne faut pas hésiter à bien leur spécifier que vous vous trouvez dans une zone inaccessible, dans une zone en montagne, et que il faudra être mis en relation avec un opérateur du secours en montagne. Et ensuite, tout le monde peut appeler. L'idée, justement, c'est que il vaut mieux appeler peut-être un peu plus tôt que attendre qu'il fasse nuit et nous appeler à ce moment-là. Alors, bien sûr, on viendra quand même, mais c'est pas, voilà, il vaut mieux appeler pour avoir un avis technique, demander potentiellement un avis sur les conditions avant de s'engager dans un itinéraire qu'on n'a pas forcément bien regardé parce qu'on n'a pas forcément bien préparé sa sortie. Donc voilà, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne nous dérangez jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre au téléphone. Et puis ensuite, ce sera à nous de déterminer en fonction de la situation si nous devons intervenir ou pas.
Ce message est volontaire parce que ça vous arrive souvent d'avoir des personnes qui appellent un peu trop tard.
En tout cas, on a des gens, quand on discute avec les pratiquants, qui nous disent « on ne veut pas vous déranger ». Voilà, il faut bien retenir que vous ne nous dérangez jamais. Il y a une permanence opérationnelle, il y a une permanence téléphonique qui pourra vous renseigner et déterminer ensemble si c'est nécessaire d'intervenir ou en tout cas, voilà, on préfère avoir un appel un peu plus tôt que de devoir intervenir sur une situation dramatique un peu trop tard.
Et vous n'êtes pas surchargé d'appels. Alors aujourd'hui, comme on peut penser à l'hôpital aux urgences où il y a une surcharge et on a du mal à gérer la demande.
En tout cas, on a la capacité à les traiter, ces appels. Et puis si par hasard, on est dans une situation critique en termes de volume d'appels au moment où vous appelez et que la situation n'est pas urgente, simplement, on vous mettra en attente, on vous demandera de rappeler un peu plus tard. Ça, on pourra le faire sans difficulté.
On en parlait un peu plus tôt des situations dans lesquelles vous arrivez. Il y a beaucoup de types d'accidents. Il y en a quand même sur lesquels vous avez envie de prévenir plus, de sensibiliser plus.
Disons que les conditions actuelles m'amènent à reparler des avalanches, même si on est sur le début du printemps pour ce qui est de la pratique du ski, mais on va avoir une pratique importante du ski de montagne, du ski de randonnée, peut-être des raids à ski. Et on le sait, en tout cas depuis quelques jours, les conditions se sont dégradées. Il y a des cumuls de neige qui sont assez importants en haute montagne. Et donc, bien sûr, le premier point de vigilance, ce sera pour les pratiquants du ski de randonnée, de la raquette à neige en altitude et du ski hors piste, de bien se renseigner sur les conditions, de bien lire le bulletin d'estimation du risque d'avalanche de partir avec tout le matériel nécessaire en sachant s'en servir, donc le triptyque classique, hein, DVA, pelle, détecteur de victimes d'avalanche, pardon, pelle et sonde, pourquoi pas un sac airbag aussi, et donc bien sûr de s'être entraîné avec ce matériel, de savoir s'en servir. Et puis aussi, mais ça c'est un conseil qui est valable pour toutes les activités, de bien choisir son itinéraire et de ne pas hésiter à adapter son plan, à adapter son itinéraire en fonction des conditions rencontrées sur le terrain, changer de plan pour pourquoi pas en fonction des conditions, effectuer un itinéraire moins engagé.
Et vous avez l'impression que les consignes de sécurité, comme avoir le DVA, le détecteur de victimes, avalanche, l'appel, la sonde, sont respectées?
Oui, je crois que en tout cas le matériel, l'emport du matériel, c'est quelque chose qui maintenant est bien ancré. On ne répétera jamais assez. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos actions de prévention en début d'hiver et au cours de l'hiver de bien répéter l'emport de ce matériel, de bien voilà marteler l'emport de ce matériel, mais aussi de bien savoir s'en servir, donc de s'être entraîné. Bien rappeler que l'emport de ce matériel, il est valable pour les skieurs de randonnée, mais il est aussi valable pour les skieurs qui vont faire du hors-piste ou les gens qui pratiquent la raquette à neige, qui peuvent parfois se trouver dans des situations où le détecteur de victimes d'avalanche serait nécessaire.
Donc vous disiez donc prendre ce matériel, savoir s'en servir évidemment, faire attention donc aux conditions pour les avalanches particulièrement en ce moment. Y a-t-il d'autres recommandations que vous voudriez faire en ce moment avec ces conditions, mais aussi avec le printemps? Ce sont peut-être des conditions particulières également.
Alors pour les conditions actuelles, ou en tout cas celles qu'on a connues jusqu'à il y a quelques temps, on est aussi assez souvent intervenu sur des chutes sur des plaques de glace. C'est des phénomènes qu'on rencontre fréquemment au cours de l'hiver quand les conditions changent un petit peu. Les gens pratiquent la randonnée pédestre sans être forcément équipés et se retrouvent à chuter parfois sur des plaques de glace. Donc il faut faire bien attention, ne pas hésiter en fonction des itinéraires à adapter son matériel avec soit des petits crampons ou des choses qui permettent d'éviter de glisser sur la glace. Et puis après pour le reste, la saison du printemps va effectivement se lancer. C'est celle, je le disais, du ski de randonnée, du ski de montagne, et donc les conseils que j'ai pu rappeler s'appliqueront au printemps aussi.
Il n'y a que le 112 à appeler, s'il y a d'autres contacts à connaître?
Non, c'est le numéro sur lequel on demande d'appeler, ça permet de centraliser au niveau du centre de traitement des appels du CODIS, et ensuite bien sûr d'être mis en relation avec un opérateur du secours en montagne.
Et lorsqu'on est en danger, au-delà d'appeler, est-ce qu'il y a des comportements à adopter?
Oui, alors tout ça, ce seront des consignes qui seront données par l'opérateur en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, parce que les situations, pardon, sont très diverses en fonction à la fois du terrain, de la nature des blessures, de la difficulté d'accès. Donc tout cela, c'est finalement des précisions qui seront données par l'opérateur, mais la priorité, ça peut être déjà de porter secours dans certains cas, ou de se mettre en sécurité, de porter secours et de se mettre en sécurité. Tout ça, ce sera vraiment, on va dire, dans la discussion et dans la conférence qui sera faite, qu'on pourra déterminer les premiers actes à effectuer. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas où on a un réseau téléphonique très très incertain, et donc c'est pour ça que on privilégie réellement l'appel au 112, parce que l'appel au 112, il permet de, même si on n'a pas de réseau sur son opérateur téléphonique, il permet d'aller prendre les réseaux des autres opérateurs pour passer cet appel. Donc on dit vraiment qu'il faut passer par cet appel 112, c'est ce qui maximise les chances de réussir à avoir un opérateur. Et puis voilà, si jamais le réseau est très mauvais ou que la communication est hachée, ce qui va être très important pour nous, c'est la localisation et la nature des blessures. Une fois qu'on a ça, on est capable de dimensionner finalement notre réponse, et même si on n'a pas tous les détails, on arrivera à arriver sur les lieux en sachant ce qui se passe.
S'il n'y a pas du tout de réseau, ça arrive qu'il n'y ait pas du tout de réseau et qu'on ne puisse pas appeler, même avec le 112?
Oui, ça peut arriver dans certaines zones qui sont très petites maintenant dans les départements, mais ça peut arriver. Il y a d'autres moyens qui existent. Il y a des moyens radio qui existent quand on est notamment encadré par des professionnels de la montagne qui ont parfois des radios, puisqu'on veille, nous, un réseau radio qui nous permet d'être contacté directement via ce réseau, pareil, H24.
Un mot de la fin à ajouter, où on a fait le tour et il va être temps de clôturer l'émission d'aujourd'hui?
Non, il faut profiter de la montagne, des activités de montagne, en préparant au maximum sa sortie et en s'équipant convenablement pour l'activité choisie.
Merci Pierre-Marie Dupré. Donc vous êtes chef d'escadron, commandant du PGHM des Hautes-Alpes. C'est la fin du magazine d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 12h10 dans notre magazine à la bonne heure depuis l'antenne de Manosque avec Nathalie. On se quitte sur une dernière musique d'une artiste locale, Mandy Le Rouge, chanteuse briançonnaise qui vit désormais à Marseille et qui vient de sortir son tout nouvel album Del Cerro.
Connaissez-vous l'IGEDD ou l'IGED ? L'IGEDD, c'est l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable. Elle conseille le gouvernement sur la transition écologique et énergétique, l'urbanisme, le logement, les mobilités, l'eau, la biodiversité. Découvrez le rapport annuel 2024 en podcast sur les plateformes ou sur www.igedd.développement-durable.gouv.fr.
L'air frais, c'est sur Fréquence Mistral.
Que nos chants résonnent, nos rires sous les yeux leur font. écoute.